Le show du matin. 95.7 Kick Saturday. Avec Dominique Fortin, Marc Diquet, Martin Thomas Côté et Alexandra Tremblay.
h 42 dans le show du matin. L'une des choses qui nous passionne au Québec, et je dirais même au Canada, c'est de surveiller ce que nos voisins font en campagne électorale. C'est normal. Leur campagne électorale dure tellement longtemps. Non seulement la campagne en tant que telle dure longtemps, mais tout ce qui mène à la campagne dure très longtemps. Bon, cette année, il y aura des investitures du côté démocrate seulement chez les républicains. Je pense que c'est assez clair que le candidat est Donald Trump. Mais quand même, c'est assez intéressant. Moi, j'ai beaucoup suivi la campagne de 2008. Donc, je me rappelle de la première campagne de Barack Obama et son colistier à cette époque-là était Joe Biden. Et déjà, à ce moment-là, on le trouvait un peu vieux, puis on le trouvait gaffeur, puis on n'était pas sûr. Et depuis quelques semaines, ça semble être le favori des Américains pour battre Donald Trump. J'ai un peu de misère à comprendre. Dans ce temps-là, on fait quoi? On appelle Raphaël Jacob, la chaire Raoul Dandurand, spécialiste en politique américaine. Monsieur Jacob, bon matin.
Bon matin.
De la misère à comprendre comment les Américains peuvent tomber en amour avec un gars qu'on trouvait gaffeur et un peu vieux en 2008.
Premièrement, ils sont pas en amour. Ça, c'est la première chose qu'on doit constater. Vous disiez en entrée de segment, en ouverture de segment, que la campagne était très longue. Ben justement, elle est très longue. Gardons en tête que là, on tend quoi? Juin 2019, les premiers électeurs démocrates à se prononcer formellement, ils vont le faire en février 2020, juste pour les primaires.
Oh boy! OK, c'est loin.
C'est très loin. C'est dans presque un an. Donc, il y a ça à garder en tête de un. Et de deux, c'est vrai qu'ils mènent présentement dans les sondages à la fois pour ce qui est des primaires et à la fois dans une élection générale hypothétique entre lui et Donald Trump. Mais ce qui est également vrai, c'est que, comme vous l'avez souligné, c'est un type qui est gaffeur. Et des gaffes, il a déjà commencé à en faire une, je vous dirais, particulièrement importante il y a de cela plusieurs jours sur la question du financement public pour l'avortement. Il était contre, après il était pour, après il était contre, après il était pour. C'était extrêmement malhabile. Ce genre de gaffe-là, d'erreur-là, si ça se produit, ça se reproduit sur une base moindrement récurrente, moindrement fréquente dans la campagne, lorsque là, vraiment, ça va commencer à battre son plein, qu'on va être en débat, ça va être différent pour lui, j'ai bien l'impression. Mais à date, entre autres, parce qu'il a été vice-président pendant 8 ans, il n'y a pas un autre candidat qui peut égaler ça comme bilan, et parce qu'il est évidemment beaucoup plus connu qu'à peu près n'importe quel autre candidat, ça lui donne un air d'aller pour l'instant, mais encore une fois, on est très, très tôt, là.
Par contre, il y a Joe Biden, mais quand on regarde, il y a 3 autres démocrates qui pourraient battre Donald Trump. Ça aussi, c'est quand même assez particulier. Alors, moi, je parlais d'amour. Est-ce qu'on peut parler plutôt de vote contre Trump? Fait que finalement, n'importe qui, sauf Trump?
Ça dépend. C'est-à-dire que, c'est une bonne question. La plupart des campagnes de réélection d'un président aux États-Unis, autrement dit, lorsqu'on a une élection où il y a un président qui est sortant, et non pas comme en 2016 où, par exemple, Barack Obama était le président sortant, mais il ne pouvait pas briguer un autre mandat, donc on avait une élection entre 2 nouveaux candidats, guillemets, Mme Clinton, M. Trump. Là, en 2020, on a une campagne de réélection. On a un président sortant, Donald Trump, il va avoir un adversaire de l'autre côté. Donc, la plupart du temps, dans les campagnes américaines, lorsqu'on a un scénario de la sorte, le président sortant obtient un score qui est très, très proche de son taux d'approbation, je vous dirais. Donc, présentement, Donald Trump est à quoi? Environ 43, 44, 45 au niveau de son taux d'approbation. Donc, le pourcentage d'Américains qui approuvent du travail qu'il fait comme président. Et lorsque vous regardez les sondages, Donald Trump contre un candidat démocrate X, Y, Z, là, il va chercher à peu près 43, 44, 45 du vote, dépendant des sondages. Autrement dit, l'identité spécifique du candidat démocrate va avoir d'importance, mais le facteur le plus important risque quand même d'être au final comment les Américains voient leur président en poste. S'ils sont satisfaits, normalement, ils vont tendre à le réélire à peu près peu importe qui son adversaire est. Et de l'autre côté, s'ils sont insatisfaits, à peu près peu importe qui l'autre parti va mettre de l'avant, cette personne-là risque de battre le président. Donc, ça, je dirais que c'est un très, très gros point. En même temps, le bémol est important, là. Les démocrates ont tellement de candidats cette année, là, plus d'une vingtaine, qu'il y a quand même, en bon français, un range de qualité de candidats. Vous avez un Joe Biden qui est gaffeur, mais qui est quand même un politicien aguerri, un politicien généralement assez solide. Et vous en avez d'autres, sans nommer de nom, qui ne sont pas nécessairement des candidats sérieux et que Donald Trump aurait probablement relativement de facilité à dépeindre de façon négative dans une campagne éventuelle. Donc, il y a un certain bémol. Là.
Est-ce que l'équipe du président Trump et le président lui-même doivent s'inquiéter de la source d'où ça vient? Parce que si c'était un sondage publié par CNN sans dire, parce qu'un sondage, ça demeure scientifique, là, on croit, là, on présume la bonne foi du sondeur, mm-hmm. mais n'empêche que de CNN ou de n'importe quel autre réseau américain, on se dit, bah, ouais, OK, il l'aime pas bien, bien. Mais que ça vienne de Fox News et qu'il décide d'aller de l'avant avec la publication du sondage, c'est quand même assez spécial. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Parce que là, on peut plus dire fake news ou encore mauvaise... On les aime, Fox News, là.
Ben, on pouvait jamais dire ça avec les sondages Fox News. Malheureusement, ça a été, je pense, très mal compris, volontairement ou non, par bien des types dans les médias au courant des dernières années. Dès que le nom Fox News était accroché à ça, c'est comme si ça dépeint de façon naturellement ou automatiquement biaisée en faveur des républicains. Donc, en l'occurrence, en faveur de Donald Trump. C'est beaucoup plus complexe que ça. Les sondages Fox News, depuis des années, là, ça date de bien avant l'arrivée de Donald Trump, ont toujours fait appel à deux firmes. Une firme démocrate, une firme républicaine qui font le sondage de façon conjointe. Ce sont des sondages faits de façon très solide, très étanche, très rigoureuse. Et leurs résultats ont été généralement assez fiables dans le passé, que ce soit lorsque Donald Trump était en poste ou avant ça. Donc, c'est pas parce que c'est un sondage Fox News que personnellement, je vais le discarter. Au contraire, tout comme vous avez d'autres sondages de médias qui sont généralement beaucoup moins favorables envers Donald Trump et qui ont fait des travaux de sondage qui sont quand même solides, qui sont sérieux, qui sont de qualité. Parce que très souvent, la plupart du temps, en fait, c'est pas le média en tant que tel qui effectue le sondage, c'est de la sous-traitance, si on veut. C'est du sous-contractage. Là. On sous-contracte une firme ou deux firmes externes pour faire le sondage pour nous. Donc, ça, je pourrais rentrer dans un cours technique, mais ça mérite quand même d'être dit. Mais une fois justement que ça s'est dit, oui, je pense qu'il y a matière à inquiétude pour le président présentement. Parce que non seulement Fox News dit ça, mais à peu près tous les sondeurs dépeignent le même portrait présentement, c'est-à-dire celui d'un président qui est pas nécessairement, en fait, pas garanti de perdre, au contraire, qui serait compétitif probablement s'il y avait une élection qui était tenue aujourd'hui, mais qui est quand même en relative difficulté, là, qui est loin, à l'inverse, là, d'être assuré d'être élu, très, très loin d'être assuré d'être élu, et que s'il l'emporte, à moins que les choses changent de façon absolument spectaculaire d'ici un an et demi, s'il l'emporte dans un an et demi, justement, ça risque de l'être à l'arraché, là.
Hey, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec sa porte-parole, Sarah Huckabee Sanders? Je me souviens même plus c'est la combientième porte-parole de la Maison-Blanche. Là. Écoute, je ne tiens plus le compte depuis quelques jours, quelques années déjà. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans son cas précis à elle pour qu'elle quitte son poste?
Ben, croyez-le ou non, c'est seulement la deuxième attachée de presse de la Maison-Blanche.
Hein? Mais,
c'est ça, les gens perdent de vue que des attachés de presse, là, ceux qui font exactement le travail qu'elle faisait ou qu'elle fait, parce qu'elle techniquement elle n'a pas encore quitté, il y en a seulement eu deux. Il y a eu Sean Spicer, qui restait à peu près 6 mois au début. Ça a été, on se rappelle, catastrophique comme mandat. C'est pour rien que ça a duré seulement 6 mois. Et après, vous avez eu Sarah Sanders, qui est en poste, en fait, depuis l'été 2017. Donc, ça va faire 2 ans.
Alors, je m'amène peut-être avec Kellyanne Conway aussi, qui n'a pas occupé une partie de ce poste-là.
Ben, pas tout à fait, mais c'est ce que j'allais dire. C'est qu'au sein de l'administration Trump, on a eu tellement de roulements de personnel, incluant à ce qui entrait à la direction des communications. Donc, Sarah Sanders, ce n'était pas la directrice des communications, mais pour ce qui est des postes de directeur des communications, là, il y a eu un roulement plus important. On a eu un type, notamment comme Scaramucci, là, dont les gens vont probablement se souvenir parce qu'il avait évidemment défrayé la manchette pendant son mandat de 10 jours. Le type s'était fait congédier après 10 jours. Donc, pour ces postes-là, pour d'autres postes stratégiques comme celui de Madame, pas seulement celui de Mme Conway, mais vous avez Steve Bannon qui a été in and out en bon français de la Maison-Blanche. Donc, il y a eu énormément de roulements, mais pour ce qui est du poste d'attaché de presse, ça a été, en guillemets, relativement stable depuis le début. Et il y a quelque chose de remarquable aussi là-dedans, parce que le travail qu'a fait, que continue de faire Sarah Sanders, est presque impossible à faire. Je veux dire, le travail d'attaché de presse de n'importe quelle Maison-Blanche est excessivement difficile. C'est une job avec une pression qu'on peut difficilement concevoir. Mais gardez en tête que ça, c'est lorsqu'on a une Maison-Blanche qui est, en guillemets, normale.
Régulière,
standard. Là, lorsque vous êtes le porte-parole de la Maison-Blanche de Donald Trump, on n'est plus dans l'ordre du difficile. On est dans l'ordre du quasi impossible comme job parce que votre travail quotidiennement, c'est de sortir publiquement devant, dans certains cas, parmi les meilleurs journalistes au monde et défendre des positions qui changent des fois à l'heure près. des positions que très souvent vous ignorez parce que le président vous a même pas informé.
En il fait, tweet par-dessus vous.
Monde... exact, c'est exactement ce que je voulais dire. Informe le public entier sur Twitter en même temps que sa propre équipe. Et quand je dis ça, c'est pas une exagération. Le président le fait plus qu'une fois depuis qu'il est en poste. Et vous devez évidemment défendre presque quotidiennement des propos qui sont carrément indéfendables parfois, là, qui sont extrêmement controversés, qui contreviennent des fois même aux directives ou aux politiques même de l'administration qu'il dirige. Écoutez, c'est impossible à toute fin pratique comme emploi. Le fait que cette femme-là va avoir été en poste pendant 2 ans, pour toutes les critiques justifiées et non qu'elle va avoir reçues, il y a quand même quelque chose à dire sur son talent, en guillemets, de communicatrice et d'attachée de presse. Parce que, écoutez, on verra qui va lui succéder, mais cette personne-là ne l'aura pas facile non plus, assurément. Là.
Mais on n'a pas eu la raison du pourquoi elle part ou...
On n'a pas eu on a eu une raison officielle qui est très souvent celle qu'on donne, évidemment, lorsqu'on est dans l'arène politique, c'est-à-dire on veut s'occuper davantage de notre famille, notre vie personnelle, etc.
Ah, le classique.
Le classique, qui est dans certains cas vrai ou partiellement vrai. Est-ce que c'est toute la vérité dans ce cas-là? Écoutez, peut-être que le temps nous le dira. Ce qu'on sait, c'est que Donald Trump a été très élogieux à son égard suite à l'annonce au courant des derniers jours. Mais quel avenir ça lui réserve à elle et quel avenir ça lui réserve à lui pour ce qui est de la gestion des communications et du message quotidien de la Maison-Blanche? Ça, comme je dis, il va falloir attendre. Il n'y a toujours pas de successeur qui a été nommé. Mais gardez en tête que ce ou cette successeur-là va vraiment se faire attendre de pied ferme par les médias. Parce que, évidemment, la relation entre les médias et la Maison-Blanche actuelle est excessivement tendue. Mm-hmm. Et Sarah Sanders, notamment parce qu'elle avait été tellement disciplinée et qu'elle n'avait pas cédé un pouce aux journalistes, c'était vraiment mérité, si on veut. C'était pas la haine, mais certainement la grogne des journalistes. Donc là, écoutez, après quoi, presque 3 ans de présidence Trump, 2 ans et demi tout au moins, la nouvelle personne en contre qui va arriver va avoir des suivis très, très grands à porter.
En terminant, puis je veux pas vous prendre de cours avec cette question-là, mais on a adopté en fin de semaine le projet de loi qui est devenu finalement une loi sur la laïcité. Aux États-Unis, on se posait la question un peu plus tôt en émission, l'impact que cette loi-là va avoir un peu à l'international au niveau des nouvelles. Est-ce qu'aux États-Unis, c'est un dossier qu'ils ont suivi? C'est-tu quelque chose qui va faire écho aux États-Unis, un projet de loi comme celui qui a été voté en fin de semaine au Québec?
Personnellement, j'en ai pratiquement pas entendu parler dans ce qui est du discours public américain. Est-ce que peut-être ça va être cité à un endroit ou à un autre? C'est possible. En même temps, je vous dirais qu'aux États-Unis, la situation est différente et lorsqu'il est question d'identité, de question identitaire, là, comme c'est un petit peu mm-hmm. au Québec, c'est pas tout à fait le même terrain sur lequel on se bat ou on se chicane, je dirais. Donc, il y a ça à garder en tête. Et je dirais que surtout avec Donald Trump, on a eu, oui, toute la question musulmane, évidemment, qui a été lancée en campagne, mais que depuis le tout début de sa présidence, on a relativement peu remis à l'avant-scène. C'est-à-dire que le débat, évidemment, lorsqu'il est dans les premiers jours, littéralement, qu'il est devenu président sur l'interdiction là pour les ressortissants de certains pays étrangers à majorité musulmane de voyager, de venir aux États-Unis, etc. Bon, on a eu ce débat-là, mais ça fait quand même maintenant quoi, à peu près 2 ans. À part ça, je dirais que les questions identitaires vraiment principales aux États-Unis actuellement depuis ce temps-là, c'est pas exclusivement, mais c'est surtout sur la question hispanique, la cause de toute la question de l'immigration illégale, etc. Donc, on reste quand même là-dedans. Et au Québec, évidemment, on est très loin de ce débat-là. Donc, je vous dirais, encore une fois, peut-être qu'on va en parler un petit peu, mais est-ce que ce qui se fait de façon générale au Québec, ça a un impact énorme aux États-Unis? Non. Est-ce que ça va être le cas dans ce cas-ci? Je serais tenté, à première vue, il faudra voir, mais à première vue, de vous dire sans doute pas non plus.
Raphaël Jacob, merci de nous avoir parlé ce matin.
Merci, bye-bye.
Bonne journée, Raphaël Jacob, spécialiste en politique américaine de la chaire Raoul Dandurand sur ce sondage qui donne Donald Trump perdant. Dans quelques minutes, les nouvelles. Bernard Drainville sera avec nous justement pour parler de ce projet de loi qui est devenu loi ce matin.
Le show du matin. On revient tout de suite après la pause. 95.7 Kick, Saguenay.